aujourd'hui va démarrer avec notre invité Jean-Éric Lois, a sorti à nous le livre Le manuscrit maudit, tu m'appartiens. C'est un très beau livre face à la volonté de divorcer de son père et de sa mère. Une adolescente de 12 ans opte pour l'assassinat collectif. Nous sommes en 1915. Quelques mois plus tard, en 1916, elle met en exécution sa décision au cours d'un dîner aux chandelles qu'elle organise pour ses géniteurs et se suicide par une technique qui lui est propre. Des décennies plus tard, après avoir essayé de se libérer de la prison, des mondes intermédiaires, l'adolescence est devenue une ombre ou esprit frappeur investi la demeure d'un écrivain qui ne croit plus en rien. Bonjour chers auditeurs, vous êtes en direct sur Radio Tam Tam avec notre invité depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Notre invité d'aujourd'hui c'est Monsieur Jean-Éric Lois. C'est un écrivain qui a écrit le manuscrit maudit, le titre Tu m'appartiens. Face à la volonté de divorcer de son père et de sa mère, une adolescente de 12 ans opte pour l'assassinat collectif. Nous sommes en 1915. Quelques mois plus tard, en 1916, elle met à l'exécution sa décision au cours d'un dîner aux chandelles qu'elle organise pour ses géniteurs et se suicide par une technique qui lui est propre. Des décennies plus tard, après avoir essayé de se libérer de la prison des mondes intermédiaires, l'adolescente, devenue une ombre ou esprit frappeur, investit la demeure d'un écrivain qui ne croit plus en lui, lui imposant de se retrouver et d'écrypter son journal intime. Cependant, rien ne semble aussi simple. Des forces s'opposent au désir de la fillette, l'adolescente et Arthur Wong sont condamnés à trouver une solution qui les arrange. Oh. Mais comment entre humains et esprit. Notre auteur et notre écrivain, qui est notre invité d'aujourd'hui, est né le 21 décembre 1976 au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Lois Jean-Éric, son pseudonyme, c'est Kanyan Lulu Tegui, est diplômé d'université, père d'une fille. Il exerce dans le privé et réside actuellement à Abidjan. Voilà. Jean-Éric, vous pouvez nous présenter votre livre avec notre envie, en collaboration avec notre frère Suzy Ebène.
Lois, j'ai écrit l'œuvre, le manuscrit maudit, Tu m'appartiens. C'est une œuvre qui a commencé par une biographie que j'aurais voulu écrire sur moi-même.
Oui.
Et je me faisant, j'ai aussi voulu rendre hommage à la ville de Grand Bassam, notre première capitale. Mm-hmm. Et c'est au cours de quelques voyages en traversant la ville de Grand Bassam qu'il y avait une maison inhabitée à la zone droite de la ville. Et cette maison-là m'a hanté. Et enfin, je contemplais cette maison-là. Et puis, grandi, en traversant la ville, j'ai voulu écrire sur cette maison. Mais comme je le disais, c'était pas un manuscrit, c'était une autobiographie et un roman hommage. Mais quelques temps après, lorsque je suis retourné à Abidjan, il y a eu des événements paranormaux qui ont eu lieu au moment où je dormais. J'entendais des bruissements sur le toit et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à côté de moi. J'espère que vous m'entendez.
Oui, je vous entends.
Qu'il y avait quelque chose autour de moi. Et donc, il y a eu cette image-là de Grand Bassam qui revenait chaque fois. Et donc, j'ai décidé d'écrire cette biographie et en même temps l'hommage et la petite de 12 ans, Christina Merodac, qui veut dire l'arc de la mer, est imposée à moi. Et s'imposant à moi, elle m'a demandé de retrouver son journal intime et qui, au fil du temps, allait devenir ce que j'ai appelé le manuscrit maudit parce que ça imposait à l'écrivain d'utiliser son intelligence, d'utiliser un pouvoir qui était en lui, qu'on appelle le christique, que vous allez voir à la fin du livre, Oui. Qui allait révéler à l'écrivain cette capacité-là de pouvoir retranscrire avec le journal intime de Christina Meloda qui était brûlée en son cœur, comme si c'était un cœur d'homme avec des brûlures autour, et il fallait à l'écrivain faire de la calligraphie. Il faut savoir que Christina Meloda avait déjà tué 3 écrivains qui avaient échoué dans l'exercice. Voici ce que je peux dire de lui.
Ah oui, c'est très bien ça. C'est pourquoi vous dites le manuscrit maudit, j'attends très bien. Mais pourquoi la jeune fille veut tuer ses parents pour programmer cet assassinat collectif?
Elle tente de tuer ses parents parce qu'il faut reconnaître que Christina Meloda est la fille d'un Français de souche et d'une métisse qui a des origines en Côte d'Ivoire. Ses deux parents s'aiment et sa mère est enceinte. Christina Meloda, ne voulant pas que ses parents se séparent ou un corps étranger, un autre homme que sa mère même n'aime pas, va essayer par tous les moyens de les réunir. Et ne pouvant pas, elle va alors décider, selon la programmation ou le déroulé des événements, utiliser une technique qui lui est propre quand elle verra que ses parents veulent forcément, fondamentalement divorcer. Et c'est à partir de ce moment-là que l'esprit, parce que quand on lit la montée du Troisième Reich, on appelle ça la solution finale. Christina a trouvé la solution finale pour pouvoir mettre fin à sa souffrance. C'est aussi une critique de l'individualisme occidental.
Oui.
C'est aussi une critique de l'individualisme occidental parce qu'elle est seule. Ses parents ont mis du temps et elle n'était que seule. Mm-hmm. Elle n'était que seule. Voilà, je critique aussi l'individualisme occidental qui a presque détruit la structure matrimoniale, la structure de la famille en Europe. Mm-hmm. Donc c'est de cela qu'est partie Christina Meloda qui va décider en 1915, pendant la période coloniale, de mettre fin à ses jours, c'est de mettre fin aux jours de ses parents.
Oui.
Au cours d'un dîner aux chandelles. Mm-hmm. Au cours d'un dîner aux chandelles. Mais le manuscrit est maudit pourquoi? Parce que la demoiselle impose à l'écrivain d'entrer en lui, d'utiliser des pouvoirs intérieurs, des pouvoirs exogènes.
Oui.
Et pour utiliser des pouvoirs exogènes qui vont lui permettre de pouvoir déchiffrer le manuscrit. Il faut voir que l'écrivain aussi est ténaillé par quelque chose. L'écrivain est ténaillé par quelque chose.
Mm-hmm.
L'écrivain est ténaillé par ses échecs personnels.
Mm-hmm.
D'abord, son échec avec sa femme qu'il surprend sur la plage d'Abidjan en train de forniquer avec un inconnu. Et il est détruit aussi parce qu'il n'a pas de travail. Il est diplômé, il a toutes les aptitudes, mais rien ne semble marcher pour lui. Et à partir de ce moment-là, Christina Meloda, cherchant un écrivain, ayant tué 3 écrivains, et cherchant un écrivain qui ait en lui la capacité de pouvoir retranscrire son journal intime, va choisir Arthur Conan Doyle comme cible, parce qu'elle sait qu'il a la capacité de le faire. C'est d'ailleurs elle qui va lui dire que le Christique est en toi, c'est-à-dire que le pouvoir secret est en lui, déposé comme un sédiment qu'il peut utiliser s'il veut réellement.
Ah oui, c'est très instructif. Ça là, il investit la demeure de l'écrivain qui ne croit plus. Mais quand même,
oui.
Il lui impose, mais quand même, de retrouver, mais quand même, son journal intime et le décrypter. C'est mais quand même quelque chose d'assez... assez compliqué, c'est une histoire complexe. Nous sommes en 1915, effectivement, nous, à l'époque coloniale, et actuellement, ce système-là a détruit même notre esprit de solidarité en tant qu'Africain. Et cet individualisme-là, qui pousse même ce que vous le dites, que la jeune fille va devenir même assassin.
Oui, ça c'est évident. Et il faut savoir que l'écrivain a eu des problèmes. Il y a un journal intime, quelque chose qui racontait la vie de la fillette. Et il faut savoir que les parents de la fillette, ce sont ses parents qui ont brûlé le journal intime en son cœur. Parce que la libération de Christina Meloda, qui va devenir dans le tome 2, vol de corps, parce qu'elle vole les corps, ses parents vont brûler le journal intime pour que Christina Meloda ne s'échappe pas des mondes intermédiaires. Moi, je ne parle pas des limbes, je parle des mondes intermédiaires. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est deux mondes qui se côtoient, qui sont juxtaposés, et Christina Miloudak peut sortir des mondes de l'intermédiaire pour arriver au monde des vivants. Quand je répète au début de mon œuvre, dans le prologue, j'essaie d'étaler cette vision-là. Donc il faut un écrivain qui ait la capacité, ça veut dire qui ait une force kabbalistique en lui, qui ait un secret de naissance naturelle qui lui soit donné pour parvenir à déchiffrer. Parce que Paul Arthur va utiliser la calligraphie pour voir les lettres qui manquent. Mm-hmm. Et à partir de la force intérieure qui est en lui, Christina Miloudak qui va lui révéler que le christique est en toi, que tu peux retranscrire mon manuscrit si et seulement si tu le veux. Donc, Arthur Born va entrer en lui et il y a un pouvoir qui va sortir en lui, qui se trouve dans le tome 2, le prévenu tu l'étais qui est là, que vous voyez, le prévenu tu l'étais qui est là, qui va remplir l'espace vide laissé par les brûlures. Le cœur s'est pour dire simplement que Christina Miloudak a commis un crime impardonnable. Voici la réponse que je peux vous donner.
Effectivement, vous pouvez nous le lire un petit peu, si vous avez la page là sous vos yeux.
Bon, je vais vous lire une page que j'ai choisie comme ça.
D'accord.
Voilà, j'ai choisi comme ça. Le chapitre 1, la page 18.
D'accord.
Ces années 70, au son des vieilles cloches maudites, toutes mes scènes cinématographiques vues. J'entendais cette voix qui me disait toujours, de façon subtile, tu m'as pas. Elle parlait et insistait, je ne m'en souciais guère. Et pourtant, et pourquoi l'aurais-je d'ailleurs écouté? Pourquoi? Aujourd'hui, tout m'est toujours anormal, car cloches et clochettes des innombrables s'appellent dites bénis, claironne. Je suis enfant, ne sachant pas qui il est. Mon enfance, c'est de ça qu'il s'agit. Cependant, est rythmée par des déplacements de globe trotteur qui me permettent de découvrir cité du pays et culture multiforme. L'ultime point de chute était là. Oui, l'ultime. Nous sommes bien à Grand Bassam, l'une des premières capitales du pays. Bien sûr, et cela grâce au progrès d'avant indépendance et des années 70, où le miracle d'antan est devenu mirage aujourd'hui du fait des multiples clivages. Voici la première texture que je vous lis pour vous situer dans le cadre spatio-temporel du déroulé du manuscrit maudit du Mapassi.
Ah oui, à la fin, la scène se retrouve dans le Grand Bassam ou à Abidjan? Oui.
La scène se déroule à l'entrée de Grand Bassam.
Ah d'accord.
Et quant à vous, à l'entrée de Grand Bassam, c'est-à-dire que c'est dans Grand Bassam, mais c'est en début. Quand vous rentrez là où il y avait le centre artisanal, où il y avait les tisserands, les fabricants de masques, c'est à cette entrée-là que la maison, la Villa 13, où les événements vont se dérouler, se trouve. Mais le personnage dormait à Grand Bassam. Il dormait à Grand Bassam, mais Grand Bassam, où il dormait, c'était la ville de Grand Bassam, mais ce n'était pas la ville de Grand Bassam. Parce que le manuscrit maudit est écrit en 7 tomes. Le manuscrit maudit, c'est pas que les gens doivent savoir, est écrit en 7 tomes. Ce que je vous montre ici, c'est le tome 2.
D'accord.
Le tome 2. Mm-hmm. Ça, c'est le tome 2. Mm-hmm. Le tome 3 est fini. Le tome 4, le tome 3, c'est prévenu. Attends-toi au pire, sinon. Mm-hmm. Le tome 4, c'est le scalp humain de Dramega Premier. Ces deux œuvres, je les ai scellées parce qu'il y a eu des événements paranormaux qui sont intervenus lorsque j'ai fini le tome 2 et que je l'ai fermé. Donc, j'ai fini les quatre tomes et le cinquième tome qui est Guémoi Joconde, qui est un titre en ouvrier. Mm-hmm. Guémoi Joconde qui est la menthe d'Arthur Born dans le tome 2. Et les autres tomes, il y a le retour. Le tome 6, c'est le retour de Lilith Adamania. C'est seulement le tome 7 que je n'ai pas le titre en tête parce que je ne sais pas, selon le déroulé, on le fera. Donc, le « tu m'appartiens » est une parole polysémique. Je dis parole polysémique parce que Arthur Born pense pense que c'est Christina Birodak qui lui a dit « Tu m'appartiens
». C'est pas un peu possessif, ça?
On pense que c'est... Oui, c'est la possession, parce que lorsque Arthur Vaughn a libéré Christina Birodak, qui est devenue Vaughn de corps dans le tome 2, où elle va tuer Dionne Warwick, une Américaine, à Paris, elle va avoir, lorsque l'écrivain la délivre, elle a été, à 12 ans, elle n'a pas connu de sentiments pour un homme. Dans sa libération des mondes intermédiaires, ou des mondes de l'en-dessous, comme je l'appelle, elle va avoir des sentiments humains. Parce que pour elle, elle est libérée, elle doit retrouver la lumière. Mais Christina Birodak, son amour pour Vaughn va l'empêcher de retrouver le monde des lumières, qui est qu'on appelle le séjour des morts. Elle va décider de rester auprès de Vaughn et de devenir sa femme. Et pour cela, il lui faut un corps. Mais dans le tome 1, on ne le voit pas. Mm-hmm. Le tome 1 est simplement pour poser le décor des événements qui vont se dérouler dans les autres tomes qui vont arriver. Et il faut remarquer que lorsque Arthur Vaughn trouve le journal intime de Christina Birodak, il ne l'a pas trouvé facilement parce qu'elle avait caché dans un pan de mur. La maison était brique et ballante, tout était détruit. Il allait dans ce lieu-là où il y avait des fruits parce que ça appartenait aux Français. Les Français, vous savez, ils plantent des goyaviers, tous les fruits dans leur jardin. Il y avait un potager, comme on peut le dire. Donc les enfants allaient manger. Les autres villas étaient là. Mais Arthur Vaughn était attiré par la villa 13. Arthur Vaughn était attiré. Il n'y avait pas de nom sur cette villa. Mais moi, j'ai décidé de mettre le 13 parce que c'est symbolique. Parce qu'on dit, on parle de vendredi 13. Et donc, à partir de là, elle va exiger, parce que pour entrer dans la maison, il faut que Arthur Vaughn entre à 0h et sorte à 3h30. Si Arthur Vaughn sort après, si 3h30 le trouve dans la villa 13, il y laisse son âme. Il y laisse son âme. Donc il y a un intervalle d'heure que Arthur Vaughn doit respecter. Et quand vous allez voir, lorsque Arthur Vaughn trouve le journal intime, la petite, elle a enterré ses parents dans la maison, elle a mis du ciment, et puis elle est sortie, elle s'est tuée par la technique qu'elle avait en tête. Quand il trouve le journal intime, ou quand Arthur Vaughn sort de la villa, il y a des forces exogènes qui s'opposent à ce que Arthur Vaughn sorte de la villa. La porte qui était presque démembrée va se fermer hermétiquement, et dans sa procession pour ouvrir la sortie, Arthur Vaughn va rencontrer cette barrière invisible, comme des verres vitrées, mais qu'il ne voit pas. Qu'il ne voit pas. Et donc, à partir de la force intérieure, le Christ qui est en lui, Arthur Vaughn doit s'arranger pour sortir de la villa. Et au moment où il sort de la villa, il ne lui reste que peu de minutes. Il ne lui reste que peu de minutes. Et Arthur Vaughn va utiliser le pouvoir, le Christ qui est en lui, qui lui a été donné par Christine, qui lui a été révélé plutôt par Christina Birodak, parce qu'il avait en lui naturellement, il est né avec ce pouvoir. Arthur Vaughn va utiliser ce pouvoir intérieur pour briser les sept barrières, pour briser les sept barrières jusqu'à la porte. Et quand il va sortir à 3h29min59s. Ça veut dire qu'il lui reste que peu de secondes pour pouvoir s'en sortir. Et même pour sortir, la porte était devenue hermétique. Il a fallu que l'utilisation de la force intérieure en Arthur Vaughn pour ordonner à la porte de s'ouvrir. Et lorsqu'il est sorti, l'univers a changé. Là où il pensait qu'il était un sol sec et depuis un marécage, les arbres ont commencé à pousser.
Ah oui. Ah oui, c'est...
Voilà.
Ah c'est oui, c'est mais quand même... On voit dans l'ouvrage émet quand même une puissance assez ambiguë. Il y a les forces mystiques, il y a aussi des forces par rapport à cette jeune fille, Miranda, et avec Arthur Vaughn. Et à la fin, les deux sont condamnés aussi à vivre ensemble, et puis aussi, tel que les tomes, je n'ai pas lu tout, j'ai lu des extraits du livre, mais là, si on poursuit le thriller va nous amener loin, hein, sur plusieurs épisodes des séquences qui sont plus ou moins tragiques, mais aussi instructives des réalités de notre monde actuel.
Oui, ça c'est vrai. Vous avez bien cerné les contours de cette œuvre. Comme je le disais au début, c'était une autobiographie et un roman hommage à l'ambassade.
Oui.
Je ne sais même pas dans quelles conditions, une fois m'a posé la question sur la zone littéraire exclusive, une zone francophone sur WhatsApp, oui. Et quelle était la trame de mon œuvre. J'ai eu du mal à l'expliquer parce qu'au début, je connaissais la trame de mon œuvre. Je savais où mon œuvre commençait et où mon œuvre s'achevait. Mais lorsque ces phénomènes paranormaux se sont imposés à moi, il a fallu que je change de fusil d'épaule. Je vous dis que le tome 2, quand j'ai fini le tome 2, où je suis assis, c'est là que j'étais assis que j'ai fini le tome 2. Lorsque je suis sorti pour fumer une cigarette, j'ai été attaqué par les bandits. Ils ont pris tous mes supports et qui sont pas mes supports où étaient mes manuscrits.
Ah oui. Mais vraiment, j'apprécie.
Mais les supports où étaient mes manuscrits. Pour vous dire qu'il y a des forces qui interviennent.
C'est. Je conseille, vous savez, c'est un petit peu comme dans des religions dites révélées. Il y a. C'est dans ces religions-là, il y a le côté ésotérique, il y a aussi le côté quand on va à la messe ou à la mosquée ou je sais pas, ou à la synagogue, il y a le côté que le monde profane sait, il y a aussi un autre aussi qui est plus profond. Moi, je me retrouve dans tes récits, ils sont un petit peu complexes là, humains et puis aussi plus ou moins tragiques. Moi, j'apprécie ça. Mais après, c'est à l'auteur maintenant de bien se situer et comprendre la profondeur. Du livre, le livre en elle-même n'est pas vraiment hermétique. Il y a aussi des ouvertures pour mieux comprendre, pour pousser à acheter le deuxième tome, le troisième tome et le quatrième tome. Ça veut dire qu'on devient accro. On veut savoir la fin de l'histoire.
Oui, la fin de l'histoire, moi-même, je ne la connais pas. je ne la connais pas. C'est pour cela que je vous ai donné le titre des autres tomes. Mais le septième tome, je ne sais pas comment ça va se terminer. Parce qu'il faut savoir que dans le déroulé. Oui, dans le déroulé des tomes, le sixième tome, c'est le retour de la première dame, la première femme d'Adam et Ève.
Oui.
Celle qu'on appelle Lilith, puisqu'elle n'a pas de nom de famille. Moi, je lui ai donné les collés à Adam. Donc, elle s'appelle Lilith Adamania.
D'accord.
Parce que la première femme d'Adam n'est pas sortie de la côte d'Adam. Ah. Elle a été créée et elle vivait, elle s'est rébellée et dans sa rébellion, elle s'est retrouvée en Égypte ancienne. Ah. Se retrouvant en Égypte ancienne, oui, elle est devenue là-bas la femme des esprits et c'est en cela que Dieu a endormi Adam ou fait sortir Ève. Donc c'est le sixième tome, c'est sur elle, le retour de Lilith Adamania. Donc j'ai les tomes qui sont là, j'ai fait des recherches à ce niveau.
Oui.
Je réfléchis comment est-ce que je vais engendrer ou dérouler, parce que le tome 4 que j'ai signé, le scalp humain de Dramega Primé qui fait 9 mètres carrés sur 9 mètres carrés, avec une épaisseur de près de 40 cm, est fait dans de la peau humaine. C'est de la peau humaine que Dramega Megatrium Premier a eu avec ça. Donc le manuscrit maudit, tu m'appartiens,
Ah oui, vraiment,
à la n'est rien d'autre qu'une œuvre de 7 hommes. Oui, tu m'appartiens, ça c'est Christina Miroda qui le dit. Christina, l'arc de la mer, qui le dit. Quand on parle des Mérovingiens, voilà, on parle d'Astéris le Gaulois, elle, son origine sort de l'eau. C'est une sirène qui est devenue humaine, mais qui est devenue humaine, qui s'est vite tuée à cause de la pesanteur humaine qui pétait sur son corps et qui va revenir et qui va refuser de repartir après libération des mondes intermédiaires ou des mondes de l'en-dessous. Parce que moi, les limbes, je ne parle pas des limbes. Donc, il faut savoir que l'œuvre est ainsi. L'œuvre est ainsi. C'est une œuvre qui se trouve entre la réalité et ce qui est anormal. Moi, je ne savais pas, quand j'écrivais l'œuvre, je me suis dit que c'était une œuvre simple que j'écrivais, mais c'est au tome 2, dans le prévenu, tu l'étais, et à l'écriture terminale, fermeture d'ouverture, fermeture d'ordinateur, lorsque j'ai été attaqué le 15 juin 2015, que j'ai compris, c'est pourquoi j'ai scellé les deux tomes intermédiaires, c'est-à-dire attends-toi au pire, sinon, et puis le scalp humain de Dramega Premier. Le scalp humain. Il faut reconnaître que le tome 2 qui commence, les événements qui ont lieu dès l'ouverture avec l'accident sur le pont de Gaulle, c'est un rêve que j'ai eu à faire. C'est un rêve que j'ai eu à faire avec la mort de toute la famille d'Arthur Borne, et dans le tome 5, parce qu'il vient sortir le tome 3 et 4, c'est là on va voir où Arthur Borne dormait réellement quand il allait à Grand Bassin. Voilà.
Ah oui, vraiment, c'est drôle, hein. Je ne sais pas, quand il sort de l'eau, j'ai l'impression que j'ai affaire à Mami Wata. Vous voyez là l'esprit des femmes sirènes qui sortent de l'eau.
Oui, c'est évidemment ça. Mais l'auteur que je suis, Jean-Éric Loire,
oui.
Kenyat Louloutegui, parce que j'ai changé de nom, oui. C'est la seule œuvre qui est écrite avec mon nom à l'état civil. Mes autres œuvres, je m'appelle Jek Louloutegui Loire. Jek Louloutegui Loire.
Oui.
C'est-à-dire la contraction du chant et de l'érique. Et le Kenyat que vous avez vu dans mon pseudonyme,
d'accord.
Et que le Louloutegui est collé à mon nom de famille.
Mm-hmm.
Mais c'est dans le déroulé qu'on verra.
Ah.
Il faut reconnaître que l'écrivain a été déboussolé par des événements majeurs. Des événements majeurs. Lorsque Christina Merodac lui dit « Tu m'appartiens », lui, Vaugne, pense que c'est Christina Merodac seule qui lui dit « Tu m'appartiens ». Mais il y a d'autres puissances,
mm-hmm.
plus grandes que Christina Merodac, qui ont lancé cette parole-là. Il y a plusieurs esprits qui ont parlé en Christina Merodac, mais lui, il pense que c'est Christina Merodac seulement. Mais il y a des esprits plus dangereux qui veulent contrôler l'écrivain. Parce que déjà, Christina a tué trois écrivains qui ont été incapables de déchiffrer son journal intime devenu un manuscrit. Un manuscrit, parce que lorsque même le manuscrit qui a été déchiffré, on le lit, il y a une incidence.
Mm-hmm.
Il y a une incidence qui s'en suit. Et donc, le manuscrit maudit, c'est cette œuvre-là qui ouvre des portes vers d'autres dimensions. Christina Merodac est un portail.
Mmh.
Au-delà de Christina Merodac, il y a d'autres portails qui se sont ouverts. Lorsque vous lirez le tome 2, le prévenu tu l'étais, vous allez voir comme ça que l'écrivain avec le pouvoir qui était en compte, dont on parle, le christique, est aussi appelé la carte de Trocaste.
Mm-hmm.
La carte de Trocaste qui est un pouvoir qui m'a été donné. Je ne sais pas si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Satan, si ce n'est pas Dramega Premier, ou bien si c'est de façon ancestrale que Arthur Borne va posséder cette carte qui lui permet de créer une bulle autour de lui, quel que soit l'esprit que tu es, l'ange que tu es, l'archange que tu es, tu ne peux pas atteindre Arthur Borne et tout ce qui appartient à Arthur Borne.
Ah oui, c'est vraiment j'ai envie de dire comme les Américains disent, entre les killers, parce qu'il y a de l'amour, il y a aussi pas mal des intrigues, des assassinats, comme le titre le dit, hein, le manuscrit maudit, ça le résume bien.
Oui,
et puis,
oui.
Il y a aussi des contre-coupes, ça s'entrelace aussi avec des esprits qui viennent de se mêler dans la chaîne, quoi.
Oui, c'est vrai, vous l'avez bien saisi, parce que peut-être que quand on lira, moi-même, la première fois que j'ai donné l'œuvre à ma fille,
oui.
Et je me suis dit, mais quand elle va lire, elle va voir la description de l'acte sexuel, parce que il n'y a pas de tabou, je fais les descriptions de façon crue, parce que j'ai été marqué par les auteurs d'Europe, hein, ça je peux le dire. J'ai été marqué par eux. Donc, chez moi, un écrivain qui se pose des garde-fous, il n'est plus un écrivain à 100%.
Uh-huh.
Lorsque vous lisez, vous verrez des scènes qui peuvent paraître obscènes, vous verrez des scènes qui peuvent paraître dérangeantes. Vous pouvez voir peut-être ma logique, ma philosophie est de la religion, vous allez voir, vous allez dire, mais ce monsieur, il est aux antipodes de tout ce qui est croyant, parce que moi, j'ai balayé toutes ces croyances-là qui nous ont embrigadés, qui nous ont attirés, et moi, je suis neutral. Ça, c'est la religion que je me suis créée, c'est-à-dire je suis neutre, je regarde le monde, si mes principes ne sont pas bafoués, je suis de la voie. Et donc, dans l'œuvre, vous allez voir neutral, vous allez voir la procession d'Arthur Gaulle, tout cela répond à cela. Parce qu'il y a une sorte de voyage que Christina Mérodac, parce que c'est une initiation que Christina Mérodac impose à Arthur Gaulle. Mais seulement, ses intérêts sont en jeu, les intérêts de l'adolescent de 12 ans sont en jeu. Ça va faire que Arthur Gaulle va devenir son prisonnier. Arthur Gaulle est son prisonnier.
Ah, ça se voit.
Parce que l'amour intervient. Voilà.
Oui. Ah oui, ça réfère aux pensées. Ça réfère aux pensées à un grand auteur breton. Il s'appelait Arthur, que les enfants adorent aussi écouter les contes bretons aussi, parce que nous, en Afrique, à l'école, on ne nous apprend pas nos propres histoires, nos propres contes. Comme vous me dites que ça vous est aussi inspiré un petit peu aussi des grands écrivains français. Ah bon, on va parler français parce que c'est le pays qui nous a colonisés, je pense, des Descartes. Descartes aussi faisait un mélange un petit peu de religion, d'ésotérisme. D'ailleurs, il était franc-maçon. Il y avait cet embrigadement-là. C'est pas même l'embrigadement, cette conclusion, mais il fallait que, après sa mort, nous autres, là, de l'Église, pour bien comprendre ce qu'il voulait lire, ce qu'il voulait dire. Parce qu'il était aussi croyant. Hein. Il croyait, mais son esprit était entrelacé entre des esprits de son temps aussi, parce qu'il y avait les rois qui persécutaient le peuple et tout ça, donc il fallait être prudent. Est-ce que notre jeune adolescente n'est-il pas condamné aussi à vivre de la peur, de la peur que nous avons de nos dirigeants, des esprits, de la faim, de l'esprit de la désintégration de la famille? Est-ce que ça peut aussi la pousser à la violence?
Christina Mérodac, dès l'instant où elle s'est séparée, où elle a été libérée des mondes intermédiaires ou des mondes de l'en-dessous, elle n'a qu'un but, épouser Arthur Gaulle. Mais il arrive qu'elle aussi, dans son parcours, parce que Arthur Gaulle a un pouvoir en lui. Arthur Gaulle a un pouvoir en lui. Son désir ne peut se réaliser que si Gaulle accepte d'aller avec elle. Elle prend des corps de femme, oui.
Ah, ça me fait penser au chevalier de la table ronde.
Ah oui.
Le chevalier, oui. Le chevalier est prêt à tuer pour conquérir Guenièvre.
Ouais, oui, c'est dur, hein. Guenièvre. Oui, c'est ainsi. Guenièvre, j'ai regardé la série. C'est une série que j'ai énormément aimée. Mais c'est cela. La leçon que je tire de là, c'est que l'esprit humain est fort. Quel que soit l'esprit qui vient, c'est l'homme qui donne l'ordre.
Oui.
C'est l'homme qui donne l'ordre. Lorsque l'homme donne l'ordre, l'esprit a toute la latitude d'user du corps comme il veut. Parce que comme je le disais au départ, l'homme est désarticulé. Il est désarticulé socialement. Il est désarticulé politiquement, économiquement et matrimonialement. Parce que lorsque Bibi, le père Cocu, à la plage de Port-Boué, Arthur Vaughan constate que tout est perdu pour lui. Arthur Vaughan constate que tout est perdu pour lui. Il n'y a plus pour lui une rédemption possible.